بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On avait vu la dernière fois, il y a quelques semaines, que parmi les petits signes qu'il y a à Mecque, c'est un point extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Parmi les petits signes de Qiyamah, le fait qu'il y aura toujours des musulmans. Il y a toujours des musulmans et ces musulmans continuent à pratiquer. Ils font la salat, le même nombre de salat que les sahaba. Ils font hajj, ils font le jeûne du ramadan, ils payent la zakat. Le hadith précise bien yasoumoun wa yasoumoun wa yahujjoun. Tous les ibadat sont intacts, comme les sahaba. Pas diminuer le nombre de namaz, de ibadat ou autre chose. Mais ce sont des actes d'adoration qui n'ont pas de fond. Et je vous assure qu'on est en train de le vivre ça en ce moment. Les masajid, alhamdulillah, sont plus ou moins pleins. Le Jum'a, regardez, hein, avant Jum'a, là, Moutawalli dit que fait Allah, que pendant le khutbah, il y a beaucoup de gens qui laissent à l'arrière qui parlent. Et moi, je ne savais pas, moi. Quand vous êtes devant, vous ne vous rendez pas compte de ça. Et là, ça vous fait réfléchir. Effectivement, un jour, arrivant en retard. D'accord ? Et regardez pendant votre temps effectivement le nombre de personnes qui sont passées à l'arrière et qui discutent. Ils se sont déplacés depuis leur maison pour venir. Ils ont quitté leur travail ou ils ont raccourci leur pause déjeuner ou autre chose. Et ils viennent à la masjid dans l'objectif d'écouter le khutbah, faire la salat al-jum'a, qui normalement doit pardonner leur péché, etc. Mais le jum'a ne compte pas. Il suffit qu'une personne dise à son prochain pendant le khutbah, pour que son khutbah ne compte pas. Un signe du doigt, un signe de la main, d'accord ? Donc, comprenez que la forme des actions, la forme apparente, elle sera toujours existante, comme c'est le cas en ce moment. Les ibadats qui sont, les gens qui vont pour le hajj, ils font le salat, ils font le somme, etc. Mais ce sont des ibadats qui restent sans fond, sans compréhension de la réalité. Et qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque de ces actes d'adoration ? Ce hadith qu'on a cité la fois, que on s'en dit Allah ukhbiruka li awwali dhalika yurfa, la première chose qui sera enlevée dans cette communauté c'est quoi? Qultu bala, a-t-il dit au prophète d'Allah, informe-moi. Qala al khushu', comment pourrait traduire le khushu'? La dévotion, j'ai dit la concentration, mais c'est plus que la concentration, c'est la dévotion, c'est faire une action avec le cœur. Faire une action avec le cœur, comprendre ce qu'on fait et ressentir le ibadat qu'on fait. Et à partir du moment où il y a compréhension de l'acte d'adoration et qu'on ressent vraiment la relation avec Allah, qu'est-ce que Allah acceptera bien sûr, et qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Le ibadat aura un effet direct sur le cœur. L'acte d'adoration aura un effet direct sur le cœur de cette personne. Regardez notre salat et la salat des sahaba. C'est le même nombre de rakats comme on a dit tout à l'heure. Mais regardez le cas. Une personne, à l'époque du Prophète sallam, elle avait cette mauvaise habitude, faisait ce péché, c'était un voleur. Personne volait. Sahaba va prendre le Prophète d'Allah, telle personne a l'habitude de voler, voilà, il faut trouver une solution. Le Prophète sallam dit, est-ce qu'elle fait salat? Lui, elle fait sa salat. Le Prophète sallam dit que cette salat, bientôt, l'empêchera de voler. Pourquoi? Parce que la salat, je prendrai une salat à tanha anim, fahsha et al-munkab. La salat, normalement, elle empêche. La traduction littérale, c'est la turpitude et le blâmable. Il faut utiliser des mots plus simples. Logiquement, quelqu'un qui fait sa salade régulièrement, le désir de faire des péchés diminuera jusqu'à disparaître. Parce que la salade est une relation directe entre le musalli et Allah Azza wa Jal. C'est une connexion directe entre la personne qui prie et Allah Subhanahu wa Ta'ala. D'accord ? Ça, c'était à l'époque du Prophète. Effectivement, deuxième fois, le Sahaba il va revoir le Prophète. Il dit voilà, cette personne continue à voler. On dit, khalas, il ne s'arrêtera bientôt. Et ensuite, la troisième fois, le Prophète, cette personne dit, oh Prophète d'Allah, effectivement, cette personne a arrêté de voler. C'est pas qu'on lui a coupé la main ou on lui a fait un grand discours, c'est que la salat a eu l'effet voulu sur son cœur, l'a éloigné du péché. Regardez de nos jours, combien de personnes continuent de travailler d'une manière qui n'est pas conforme à ce que Allah et le Prophète nous demandent. Combien de personnes continuent à avoir des manquements de leur vie familiale, dans leur vie de père de famille, dans leurs relations, dans leur ibadat, dans les droits des gens, etc. Mais malgré le fait qu'ils viennent à masse tout le temps, mais il n'y a pas de changement de leur vie. Et pire même, combien de personnes pas de changement. On ne juge pas, moi. Le but, c'est pas de dire que oui, il a pas il a remis par non, voilà. Mais analysons, ces ribadats sont les mêmes, le tawaf c'est pareil, le sari c'est le même, mais il n'y a pas l'effet. C'est-à-dire que l'action est faite soit de manière traditionnelle, ou alors c'est comme un rituel. On fait un rituel, on est musulman, on fait comme ça. Telle religion, les Nasara, ils font comme ça. Telle religion, ils font comme ça. Ben nous, on fait comme ça. Sans réellement comprendre qui est Allah, qui est notre Rabb, quels sont ses sifats, qu'est-ce qu'Allah attend de nous, quelle est la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces choses-là n'ont malheureusement plus de place dans nos cœurs. Oui. Et on garde un exemple. Hein. C'est d'actualité. Regardez le Qurbani. Qurbani qui arrive. Hein. Et il faut voir ça d'un regard extérieur. Il y a une personne qui est... J'ai un ami qui est à La Réunion depuis quelques temps. Depuis 2 ans environ, cette personne habitait ailleurs et elle s'est installée ici. C'est un chef d'entreprise, alhamdoulilah. Et cette personne me dit que voilà, le premier bâclé qu'elle a fait à La Réunion, cette personne du premier bâclé que j'ai fait à La Réunion, j'étais choqué. Parce que c'était un concours de gros bœufs. Je me suis rendu compte que les familles se rivalisaient pour avoir le plus gros bœuf. Il a dit, mais c'est quoi votre jeu là? Il m'a dit, c'est un jeu. Qui c'est qui va avoir le concours du plus gros bœuf? C'est comme si c'était l'histoire agricole qu'il y a en France. Mais dis, mais c'est une compétition, mais on ne ressent plus le sacrifice de Ibrahim. Où est le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam? Celui qui, à l'origine, était prêt à obéir à Allah azza wa jal dans ce qu'il aimait le plus. Un fils qu'il a eu, fil kibr, qu'il a eu un âge avancé et que sa femme a eu ce fils malgré les difficultés qu'Allah lui a accordé à la fin, je dirais pas à la fin de sa vie, mais un âge très avancé, dans des conditions difficiles, et Allah Ta'ala demande à Ibrahim alayhi salam de dégorger son fils pour lui, pour Allah. Il est prêt à le faire. C'est ça la philosophie du Qurbani, de sacrifice pour Allah. On est prêt à tout abandonner pour Allah Azza wa Jal, et c'était ça le test de Hazrat Ibrahim alayhi salam. Où est donc cette recherche de la piété, ce qu'on appelle al-imtithal bi amrillah, se conformer à 100% aux ordres d'Allah. Et se conformer à 100% lorsqu'Allah Ta'ala vous dit que ça c'est haram, ne le faites pas. C'est ça le réel sacrifice de Ibrahim alayhi salam. Et cette philosophie, cette recherche de la piété, de la proximité d'Allah, elle est inexistante. Il l'a marrahim Allah, mais on ne trouve plus. Et cette anecdote, ce cas de figure de Qurbani illustre bien la présence de l'action. Et j'irai même plus loin, que le zahir, l'apparence de l'action, elle est parfois supérieure à l'apparence des actions des Sahaba. Un animal de cette taille, de cette valeur, je ne sais pas, ça coûte combien, je ne sais pas, 3 000, 4 000 euros, mais à l'époque, imaginez en dirham ou en dinar, quoi, Sahaba, c'était impensable. C'est vrai, c'est pas le même poids des choses, mais même dans d'autres pays, on n'imagine pas acheter un animal de ce prix. Le zahir, le sacrifice financier, ce qui est fait, alhamdulillah, c'est certainement, c'est parfois plus important, mais le fond n'y est pas. Le fond n'y est pas. Et on va voir à travers 2 exemples, 2 cas de figure qui montrent que telle chose est présente, mais sans fond. Alors, parmi les petits signes de Qiyamah concernant l'accomplissement des bonnes actions, vous voyez, eh bien, le fait qu'arrivera une époque où les gens arrêteront totalement d'inviter vers Allah. Les gens arrêteront totalement de faire le da'watu ilallah. Alors, juste une parenthèse, parce qu'il faut quand même faire ta'alik. Ce qu'on disait tout à l'heure, les ibadats qui sont, mais il n'y a pas de fond. Donc, vous comprenez bien, le but, c'est pas de dire juste qu'on n'est pas bon, on est mauvais, on est dans le mauvais chemin, on va vers l'enfer. Non, c'est pas un discours entièrement négatif. L'objectif, c'est quoi? Je le rappelle, je vous l'avais déjà dit il y a 2 semaines, quand on dit que malheureusement, les actions n'ont plus la même valeur qu'à l'époque des Sahaba. L'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre quelles seront les récompenses de la personne qui, malgré le fait qu'elle vive dans un milieu défavorable à l'accomplissement des bonnes actions. C'est le cas 100% dans notre pays, où le contexte est tel, il y a un tel degré de fitna, il y a une telle conjoncture économique que celui qui vraiment peut faire marcher son magasin, son commerce, son entreprise, sans avoir recours à l'intérêt, moi je dis ça vous le fait. Celui qui est capable de marcher dans la rue Maréchal Leclerc, ou à Saint-Pierre de la rue des Beaux-Enfants, ou je ne sais quel endroit, les endroits fréquentés, tout en gardant son regard baissé, moi je dis ça vous le fait. Là je ne fais que répéter ce qu'un Jamaat avait dit une fois qu'il était venu, quand il y a 5 ans, il y avait le Jora du Parc, il y avait 2 personnes de Makkatul Mukarrama qui étaient là. et cette personne voulait absolument voir les frères arabes qui étaient au centre-ville de Saint-Denis, les restaurateurs principalement. Je ne voulais pas les emmener, c'était un samedi. Je savais qu'est-ce qu'il y a le samedi. Et je savais que c'était un degré de fitna qu'il n'imaginait pas. C'est la première fois qu'il venait à l'île de la Réunion, dans les pays tropicaux, d'accord ? Et donc, malheureusement, ils ont insisté. On est monté la rue Maréchal Leclerc, et là j'ai vu qu'ils ne parlaient plus. J'étais choqué. J'étais choqué. Et là, il m'a dit, Ibrahim, honnêtement, si dans un pays comme le vôtre, quelqu'un est capable de vivre, d'évoluer en gardant en main. Ah ben non, normalement, on ne dit pas de s'enfermer dans la masjid parce que c'est plus le sacrifice de s'enfermer dans la masjid. D'accord ? De vivre une vie normale tout en gardant son regard baissé, en restant éloigné du haram qui est accessible. Il vient à vous, il n'y a pas besoin d'aller vers lui. Elle dit que cette personne, que j'atteste que ça, c'est un wali yudbar. Que cette personne est un ami, est un proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le degré de sabar qu'il faut pour évoluer dans ce genre de contexte, c'est conséquent. Donc, et on sait la règle générale, je réalise dans quel point en ce sens, que Allah Ta'ala rétribue pardon, en fonction du sacrifice. Plus une action était faite dans des conditions difficiles, plus c'était compliqué de faire la salat. Est-ce qu'on peut comparer, sans dénigrer personne, hein, une personne qui, je ne sais pas moi, elle habite près d'un masjid, d'accord, elle ne travaille pas, par exemple, okay, ou elle est à la retraite. Personne qui est à la retraite, par exemple, qui habite en face de la masjid, elle vient faire son namaz al-fajr avec jamaat. Et quelqu'un d'autre qui a son commerce, et que cette personne baisse le rideau, ou alors, ça n'existe plus, hein, ou alors cette personne se fait remplacer à la caisse pour venir faire la salat avec jamaat. Est-ce que c'est le même sacrifice? C'est pas le même sacrifice. Et Allah Ta'ala voit ça. Allah Ta'ala est parfaitement conscient qu'il a un serviteur qui travaille, il a un contrat, la conjoncture économique, tout le monde a peur de perdre son travail. Combien de personnes ont peur de perdre leur emploi et donc ils n'osent pas demander à leur chef d'entreprise, à leur patron ou autre chose, donnez-moi 5 minutes pour faire ma prière. Soit le chef va refuser, soit il va vous taxer d'intégrisme ou d'autre chose, quoique l'Hamdallah, c'est des temps, on n'en parle plus. Avec la crise financière, voyez-vous comment les médias fonctionnent. Avec la crise, on ne parle plus, on n'est plus terroriste maintenant. C'est formidable ça. Avec la crise, on parle de l'effondrement de la bourse, le pétrole, etc. C'est fini, on est redevenu gentil. Mais inquiétez pas, le pétrole baisse, les coûts, Inch'Allah, ça va revenir normal et on va redevenir méchant. Ça arrive, hein. C'est le coût des choses. Right? Et donc, une personne qui. Qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Une personne, Allah Ta'ala, il voit ce genre de choses. Quelqu'un qui travaille dans un commerce ou dans une entreprise et qu'elle a le courage de demander à son patron, j'ai besoin de 5 minutes, comme il y en a qui prennent une pause, 5 minutes, la pause cigarette, d'accord? Mais 5 minutes, je fais ma prière. Wallah, je fais pas ça par Allah. Ce sacrifice-là, c'est énorme. Ça, c'est pas simple, ça. Parce que faire ce premier pas, c'est difficile. D'accord? Vous êtes à Makkah, Madina. Vous avez besoin de faire la... Vous êtes à l'aéroport, hein? Votre avion est dans 10 minutes. Si vous prenez l'avion et tout, vous ratez la salat. 4 figures, d'accord? Vous mettez un moussala n'importe où, le Qibla est indiqué, j'ai tous les murs. Vous faites namaz, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas d'aéroport, Makkah, excusez-moi. Madina ou Jeddah, d'accord? C'est tout à fait normal, vous faites la salat. D'accord? Mais faites-le... Bon, c'est vrai qu'il y a une salle maintenant, mais imaginez qu'il n'y avait pas de salle. Imaginez un cas de figure comme ça. Comme ça peut arriver ailleurs. Vous êtes dans un embouteillage. D'accord? Il y a un barrage maintenant. Vous êtes dans un embouteillage, vous avez raté votre salat. De toute façon, ça n'avance pas. C'est un genre de filtre qui ne filtre plus aussi. D'accord? Qui a le courage de tirer son moussala, de faire son namaz sur la voie de... Comment on appelle ça? La voie de secours. Qui a le courage de faire ça? Ça fait force, hein? Celui qui peut le faire, wallah, il fait quelque chose d'impressionnant. Ce genre de sacrifice ne peut être fait qu'à notre époque. C'est pour ça qu'une fois le poisson avait dit que quand est-ce que je vais voir mes frères, les croyants? Et là, le sahaba dit au prophète d'Allah, nous sommes vos frères. Le sahaba dit non, vous êtes mes ashabi, vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont qui? Ce sont des gens qui viendront à une époque. Ils ne m'auront pas vu. Ils n'ont pas vu le Coran descendre. Ils n'ont pas vu, ça c'est moi qui rajoute, ils n'ont pas vu les mu'jizat des anbiya. Ils n'ont pas vu les miracles. Ils n'ont pas vu des choses exceptionnelles. D'accord? Mais ils ont iman en Allah, iman en son prophète, ils croient au Coran, ils mettent en pratique. Ça c'est valeureux. D'accord? Et voilà, l'objectif c'est d'attirer sur ce point-là. Retourner, être pratiquant comme il le faut, avoir les qualités extérieures et intérieures qu'Allah Ta'ala attend de nous, malgré la difficulté du contexte. Et là, c'est quoi la récompense? Ce hadith que j'avais cité dans un riwayat, le Prophète dit Minwara ikum, ayyam sabr, que bien après vous, il y aura ce qu'on appelle ayyam sabr, des jours de patience. Des jours de patience. quoi? C'est que je suis comptable, je suis médecin, je suis commerçant, je suis professeur d'école, je suis enseignant, quel que soit mon métier, d'accord? J'ai une vie sociale, j'ai une vie familiale, je ne fais pas une déclaration toute l'année, j'ai une épouse, j'ai des enfants, j'ai un loyer à charge, j'ai ma voiture, je vis comme un citoyen normal, mais malgré cela, je tire un sort pour mes 5 salades, avec diamant ou sans diamant, en fonction du contexte, de l'endroit où on travaille, d'accord? Il ne faut pas aller, faut pas trop exagérer aussi. Travaille loin, il n'y a pas de possibilité, Allah il sait ça aussi. Tirez le temps pour les pharaïs, les obligations d'Allah. D'accord ? On sait que, je le dis avec beaucoup de sincérité, je sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'un musulman se doit de raccourcir sa moustache et de laisser s'allonger sa barbe. D'accord ? Je laisse ma barbe et j'obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'apparence physique, sur l'apparence de mon visage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout ce qui est au-dessous de la cheville, fahuwa fi an-nar, un homme qui met son pantalon et dont le pantalon descend au-dessous de la cheville, ce manteau qui sera couvert, ça c'est la promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce manteau couvert brûlera dans le feu du jahannam. Et le feu du jahannam, c'est combien de fois plus fort, plus chaud que le feu de ce dunya? 70 000. 70 je crois, d'accord, hein, 70, d'accord. Et là, on avait une réunion au Saint-Joseph pour le IADJ, là. Je suis passé par Saint-Philippe, première fois de ma vie, je vois Saint-Philippe. Et là, subhanallah, je me suis arrêté, il y avait les coulées de lave 2001-2002. Depuis combien de temps 2002, la coulée de lave est terminée? Ça fume encore. Et là, je vois, première fois de ma vie, je vois ça, hein. Ça fait honte, mais première fois, je vois ça. Je vois cette étendue de pierres, de roches. Et qu'est-ce que j'ai pensé? Ce qu'Allah dit dans le Coran, « Waqoodu hannasu walhijara » Allah explique que le combustible, c'est-à-dire ce qui va entretenir le feu de l'enfer, c'est quoi? Annas ou al-Hijara, les êtres humains et les pierres. C'est-à-dire c'est les pierres qui alimentent le feu du Jahannam. Et là j'ai vu cette coulée de lave qui était sec bien sûr, mais cette étendue et impressionnante qui fumait encore. Il y a des panneaux interdits de descendre et tout, ne marchait pas, etc. Après 3 ans, ça c'est le feu du dunya qui brûle après 3 ans, qui encore de la fumée. Plongez votre main, vous êtes brûlé, mais subhanallah, le feu de Jahannam c'est quoi? Et le feu de Jahannam, sa consistance c'est la même chose avec des pierres qui entretiennent la fusion de ce feu d'Allah et qu'Allah nous protège. Donc, pour revenir à ce que l'on entend dire, le prophète me dit que, voilà, on expliquait c'était quoi quelqu'un qui fait preuve de, qui reste accroché à son nez, c'est pas être accroché, ça ne veut pas dire pratiquer. Pratiquer comme il y en a qui aiment utiliser ce terme, hein, sont rigoureux. Un islam rigoureux. Ou alors, fanatisme, ou intégrisme, ou autre. Non, il y a besoin de tout ça. Ces mots-là n'ont jamais existé dans le jargon islamique. Le terme intégriste n'existe pas. Le terme intégriste n'existe pas. Intégriste, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui reste accroché à son dire. Et rester accroché à son dire, c'est pas faire comme quelques imbéciles font dans certains pays. Non, ça, c'est des choses. Par rapport avec cette pratique. Donc, quelqu'un qui garde un temps pour sa salat, quelqu'un qui respecte l'ordre du prophète concernant l'apparence physique de son visage, hein, quelqu'un qui respecte l'ordre du prophète concernant la manière qu'elle va se vêtir, d'accord, ça c'est preuve de taqwa. Ça veut dire que j'ai la crainte d'Allah. Comme l'expliqua le Zélène d'éléments, on est expliqué, c'est quoi la définition du fasir? Un fasir, c'est quoi? C'est quelqu'un qui accomplit un péché de manière régulière. Même si c'est un, en guillemets, petit péché, mais c'est une personne qui l'accomplit régulièrement, un, sans avoir l'intention de changer, deux, sans se rendre compte que cela provoque la colère d'Allah, trois, et sans réfléchir aux conséquences de son acte. Je citerai l'exemple de la personne qui, quand elle s'habille, ben son pantalon traîne régulièrement sous la cheville. D'accord? Vous allez dire que oui, mais il y a deux choses plus importantes. Oui, il y a deux choses plus importantes, mais si le prophète a pris soin de mettre en garde contre ça, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement important également. Parce que le prophète ne plaisante pas. Il ne fait pas peur aux gens comme ça. Il y a des cas où le prophète a insisté, par exemple, le fait qu'il y a des Arabes qui font la religion, etc. C'est des choses extrêmement graves. Mais il a trouvé du temps pour consacrer un discours spécifique, des hadiths spécifiques là-dessus. Ce qui prouve que cela a quand même son importance. C'est ça, on veut dire, quand quelqu'un qui reste accroché à sa religion. Ça, c'est dans les ibadats. Et puis, concernant la famille, l'épouse, les enfants, etc., c'est un tout. D'accord? كأجري خمسين منكم. Elle a la récompense de 50 d'entre vous. Là, les Sahaba étaient interpellés. Tout comme tout à l'heure, le hadith où sont mes frères, les Sahaba étaient interpellés. Il dit, oh, bien, Nabi Allah, ah, ou, min, vous, vous êtes au point d'être trompé. Il dit, non, prophète Allah, vous voulez dire qu'ils ont la récompense de 50, c'est-à-dire 50 parmi eux, 50 de leur époque. Le prophète dit, non. Le prophète dit, bal minkum, il a répété trois fois, non, 50 d'entre vous, 50 d'entre vous, 50 d'entre vous, en trois fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété. Ça ne veut pas dire que le degré de cette personne sera supérieur au sahaba, non. Mais en quantitatif, le nombre de thawab, c'est conséquent. Parce que, retenons la règle générale, le contexte était difficile. Donc comprenons que lorsqu'on parle de faiblesse de iman, de recul dans les actions, l'objectif c'est quoi? C'est de nous ramener vers la pratique. Que si, dans ces moments difficiles, nous restons accrochés, fermes à notre dîme, nous respectons les ordres d'Allah azzawajal, dans nos ibadats, dans notre famille, dans notre manière de travailler, sachant que la récompense, elle est énorme auprès d'Allah Ta'ala, comme ce hadith qu'on citait dernièrement, le jour de Jum'a, que le jour de Qiyamah, ça c'est un hadith, j'avais dit ça une fois à un commerçant, j'avais expliqué, dit que subhanallah, je suis admiratif, hein, vous avez une entreprise, vous avez un commerce, malgré ça, dans votre dépôt, vous avez une petite salle où vous faites namaz. C'est-à-dire que si une personne qui ne rate pas sa salat jamais, ça fait namaz, c'est moins. Mais elle fait sa salat à ça. Je dis que ça, c'est quelque chose d'exemplaire. Je dis que cette personne que vous savez, Allah Ta'ala, le Prophète dit, ce sont des hadiths que le jour de Qiyamah, il y aura certaines personnes qui accéderont, pardon, au paradis sans rendre compte. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Puis la personne, elle dit, mais moi, les affaires comme ça, il faut dire à nous. Tout le temps, il met à nous en grâce, tout le temps, il fait peur, mais ça, il réconforte à nous. Je suis d'accord. Ça fait partie du tadri. Le Prophète m'a dit que parmi ces personnes qui seront appelées pour accéder au paradis sans rendre compte, hein, le hadith, أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما إلى فين. C'est comme le verset. Mais la différence, c'est que أين الذين, ça c'est le hadith. Où sont ceux? Où sont ces personnes qui? Où sont ces personnes dont le commerce, les activités n'empêchaient pas de penser à Allah, d'accomplir la salade, de donner la zakat? Ça c'est important qu'on se mette. On garde ça bien à l'esprit que être musulman, et vous voyez ce hadith, fait mention des deux choses, c'est-à-dire la pratique du dîn et la pratique du dunya. Le prophète n'a pas dit où sont ceux qui, l'adoration d'Allah, a pris une telle place de leur vie qu'ils n'ont rien voulu faire en dehors de ça. Ça n'a jamais existé. Dans le hadith, le prophète a dit également en ce sens que hein, la personne, en parlant de la personne qui s'isole, qui va habiter loin des gens. Alors quelqu'un dit, bon, ah, là, fatigue la tête, ben, la prawala, là, il fatigue la tête, qu'est pire, ça rabla. Il s'habite la plaine des Kaf ou Silaos, se retirer. Et là-bas, il n'y a pas de fitna, etc., etc. Et la personne qui vit avec les gens, et qui, en guillemets, affronte les gens. Il y a quoi, affronte les gens? Il y a supporter les caractères des gens. Parce que vivre en société, vous savez, il y a de tout, il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui ont un tel trait de caractère, il y a des gens qui ont tel trait de caractère, mais avoir les qualités, le travail qu'il faut, la compréhension, l'indulgence, pour garder Mohabbat, pour ne pas faire des cassures dans la communauté. Le Prophète a dit que cette personne a plus de valeur, qui vit avec les gens et qui supporte les gens, en guillemets, elle a plus de valeur que la personne qui s'isole. Même si la personne qui s'isole là, elle ne verra peut-être pas quelque chose de haram toute l'année. Elle n'aura personne avec qui parler pour faire ribad ou boftan ou autre chose. Elle va faire son ribadat et rester auprès de sa famille. Mais celui qui vit avec les gens, intégré, et qui affronte les fitnas et qui a le dessus, c'est sans bidoun chaque. Sans doute, elle a un degré supérieur à cette autre personne. Vous voyez, on est une minute rien, 24 minutes, on garde à 30 minutes, Inch'Allah. Et donc, pour revenir, voilà, un exemple précis. Je ne citerai que deux exemples. Hein. Qu'est-ce qui manque aux musulmans? Parce que c'est bien beau de dire que notre iman n'est pas comme les sahabas. Mais qu'est-ce qui nous manque concrètement? Qu'est-ce que les sahabas avaient en plus de nous, tout, clair. Mais qu'est-ce qu'il y a précisément? Quelle qualité précise ils avaient qu'on ne retrouve plus de nos jours? Je citerai que deux choses. Un, muraqabatullah. Ça veut dire quoi muraqabatullah? Dans le sens original, muraqabah c'est quoi? C'est avoir la pensée d'Allah permanente. Quelqu'un qui a la pensée d'Allah permanente. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui marche avec son tasbih tout le temps? Non, c'est pas ça. Ou qui fait zikrullah tout le temps? Pas forcément, ce serait l'idéal bien sûr, mais pas forcément. C'est quelqu'un, vous avez compris c'est quoi le sens, c'est quelqu'un dont le cœur est en permanence habité par Et je vous jure qu'on est très loin. Parce que si on avait atteint ce degré, ben on serait comme les Sahaba. Une fois, il y a Ukasha, les Sahabis qui étaient avec le Prophète sallam, et puis quand il retourne chez lui, il retrouve sa femme, ses enfants, et il voit qu'il a moins, son iman diminue. C'est-à-dire qu'il n'a pas les mêmes sensations, le même feeling envers le iman. Et là, il se dit que je suis devenu un munafir. Mais le Prophète d'Allah, Nafaqa Hanbala, Hanbala est devenu un munafir. Par exemple, il dit qu'est-ce qu'il y a au Hanbala? Il dit voilà, quand je suis auprès de toi, mon iman a tel degré, j'ai telle vision des choses, mais une fois retourné chez moi, c'est plus pareil. Par exemple, il dit que si vous aviez le même degré de iman tout le temps, ben, les anges viendraient vous faire mulaqat en permanence. C'est-à-dire qu'aucun homme, aucun homme ne peut atteindre le summum de taqwa tout le temps. L'iman, il y a des moments où il est fort, et des moments où il est moins fort. Mais, donc comprenons qu'on n'a pas placé la barre trop haut là, d'accord? Comprenons que ça veut dire quoi, bon, muraqabatullah, c'est que je sois à la masjid, que je sois dans la rue, que je sois en voiture, dans un embouteillage, chez moi, en sortie, en pique-nique, quel que soit l'endroit, j'ai la pensée permanente d'Allah dans mon cœur. C'est quoi avoir la pensée permanente d'Allah? Être conscient qu'Allah me voit. Et qu'Allah voit donc tout ce que j'accomplis comme action, bonne comme mauvaise. Je vous assure, quelqu'un qui peut intégrer ça, ben elle devient le plus grand wali Allah. Et c'est ce qu'on appelle le ihsan. L'ihsan, pour ça, dit que c'est que vous adorez Allah comme si vous voyez Allah. Et si vous ne voyez pas Allah, dans ce cas, Allah vous voit. Être conscient que tout le temps, Allah Ta'ala me voit. Même si sur la terre, il y a 6 milliards d'êtres humains, et Allah a'lam, quelle quantité de djinns et d'animaux et de telle chose, Allah Ta'ala, il voit chaque personne, et je dirais même plus qu'Allah observe chaque personne. Et qu'Allah envoie des anges le matin qui rapportent une nouvelle à l'heure de l'Asr. Qu'Allah envoie des anges en soirée qui nous observent depuis le soir jusqu'au lendemain. Ils rapportent une nouvelle à Allah. Et Allah, il sait déjà ce qu'on fait. Mais ça, c'est le tartib qu'il a fait. Si on est conscient réellement de ça, comment un musulman peut rester chez lui ou rester sur son lieu de travail à l'heure de la salat sans faire la salat, je veux dire. Quelqu'un, il peut laisser l'heure de namaz passer sans faire le fikar, ben voilà, à maghrib dans 10 minutes. J'ai pas fait mon namaz. Même si j'ai garab, même si j'ai client, même si j'ai un dossier à traiter, mon rab passe avant. Parce que le jour Qiyamah, Allah me demandera pourquoi le 18 novembre 2008, hein, telle heure, vous avez pas fait, tu n'as pas fait namaz à ça. Être conscient qu'Allah me le demandera. Troisième des hadiths que le jour de Qiyamah, chaque individu sera appelé Bismihi wa Ismi Abihi. Par votre nom et le nom de votre père, pour que votre identité soit bien clamée et que la personne se présentera devant Allah, laisa baynahu wa bayna Allah tarjuman. Il n'y aura pas de personne intermédiaire entre lui et Allah, et Allah Ta'ala lui posera des questions sur chaque chose, sur son temps, sur sa jeunesse, sur sa richesse, sur ce qu'elle a fait comme bonne action, sur sa vie en général. Être conscient que ce manquement qu'il y a eu le 18 novembre 2008 à telle heure, ce manquement reviendra le jour de Qiyamah. Et qu'Allah me posera une question là-dessus. Ça, c'est muraqabatullah. Ça, dans le Coran, Alladhi yaraka, tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim, Alladhi yaraka hina taqoum. C'est Allah qui vous voit quand vous faites la salat et lorsque vous faites le sijda. Donc, dans les bonnes actions, Allah vous voit, mais également dans les mauvaises actions, Allah nous voit en permanence. Comme par exemple, dit le hadith, dans le Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi. Ce verset du Coran, deux minutes, ce verset du Coran est tellement puissant, mais malheureusement, nous, on est tellement éloignés du Coran. Et ça, on ne le dira jamais assez. Ce Coran qu'on maîtrise dans la lecture, dans le tajwid, nos élèves gagnent les concours de Coran, etc. Alhamdulillah, il y a tout ça, mais le ta'alluq avec le Coran est inexistant. 99% des gens, je sais que je répète ça tout le temps, mais l'objectif c'est d'arriver à une prise de conscience. 99% des gens, illa marahimallah, font la salat sans jamais se poser la question qu'est-ce qu'on lit dans l'hamdo, qu'est-ce qu'on lit dans tabat yada, qu'est-ce qu'on lit dans qul a'udhu birabbil falaq. Et ça c'est extrêmement grave. Parce que si un passage nous a dit que je vous ai laissé deux choses, tout le temps on répète ça, le Coran et la sunna. Restez accrochés à mon Coran, au Coran d'Allah et à ma sunna. Vous serez toujours les meilleurs, vous serez toujours préservés, quel que soit le degré de fitna. D'accord? Mais notre relation, elle est superficielle, elle se limite à la lecture. D'accord? quelle est notre relation avec le Coran à partir du moment où on n'a aucune compréhension du Coran. C'est pour ça qu'on a instauré des cours d'arabe. L'objectif, c'est quoi? C'est apprendre l'arabe pour comprendre le Coran, même si c'est à long terme, mais l'effort qu'on va faire le premier pas envers Allah, Allah Ta'ala, il peut mettre la compréhension des choses dans les cœurs, Inch'Allah. Donc, lorsque ce verset du Coran, combien de Hufad ils le connaissent par cœur? Quand Allah dit ma yalfidhu min qawlin, en ce sens, il n'y a pas une parole qui est prononcée. Illa ladayhi, sans qu'il n'y ait auprès de lui, raqibun adid. Il y a des raqib, c'est-à-dire des muraqib, des contrôleurs en guillemets. Les contrôleurs, c'est qui? C'est les anges qui sont là pour écrire chaque action qu'on va faire, pour écrire chaque parole qu'on a prononcée, pour que cela reste inscrit de manière indélébile dans notre livret de compte, et qui après notre mort, le livret de compte est plié, et dans certains hadiths, il est écrit que les livrets de compte, le jour de la résurrection, sont sous le arche d'Allah, et le jour de la résurrection, le mahshar, ces livrets de compte seront éparpillés, distribués, chacun le prendra en fonction de son iman, dans la main droite ou dans la main gauche. Être conscient que cette action passera par ces étapes pour que je le retrouve. Donc si quelqu'un a la pensée réelle d'Allah Ta'ala de son cœur, jamais, elle ne peut éteindre son réveil à 5h30 ou à 4h30 ou à 5h15 pour se rendre dans bien, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, j'ai oublié de déprogrammer mon réveil samedi soir. Jamais quelqu'un ne ferait ça s'il avait la pensée là. Ça c'est un. Et deuxième exemple, c'est un exemple. Qu'est-ce qui manque également chez les musulmans de notre iman qui fait qu'on n'a pas le degré des sahaba ou le degré requis par Allah? La confiance réelle en Allah. La tawakkal en Allah, ce point que j'avais un peu expliqué la dernière fois, le jour de Jum'a. Mais quand vous voyez quelqu'un comme Ibrahim alayhi salam qui a été projeté dans le feu et qui avant de tomber, un ange vient et demande: est-ce que je t'aide? Demande-moi, dit que auprès de toi je n'ai besoin de rien, Allah va m'aider. C'est-à-dire le feu est là, Ibrahim a été catapulté, il va tomber et il garde tawakkul ala Allah, jamais désespéré de la clémence d'Allah. Et avant de tomber, Allah dit qulna ya naru kuni barda wa salama ala Ibrahim, soit froid et doux pour Ibrahim alayhi salam. Ça c'est la confiance. Bon, vous allez dire que ça c'est des prophètes, mais c'est des exemples qu'on doit prendre. Comme le choix de Ghazwatul Ahzab, il y avait des gens qui se sont dit que oui, il y a 10 000 personnes qui nous entourent, on ne peut même plus sortir, c'était les munafiqs. Et si comment votre prophète a osé vous dire qu'un jour vous allez conquérir la terre de César, de l'empereur de paix, etc., alors qu'on ne peut même pas sortir de notre ville, on est assiégé par les Quraysh. Ça c'était la réaction des munafiqs, des hypocrites, et des mu'minoun, ceux qui avaient iman en Allah, ils n'ont jamais reculé dans leur confiance en Allah. C'est-à-dire la réelle tawakkal ala Allah, la relation directe entre notre cœur et Allah Ta'ala, ça manque. Les ribadats qui sont, mais le fond malheureusement n'y est pas. Donc c'était quelques points, et je donnerai un exemple franchement, et puis on va terminer, concernant la da'wah ilallah, on gardera ça pour un autre mardi, inshallah. Alors, un exemple, hein, je n'ai pas l'habitude de citer le cas de ulama qui ne sont pas connus, d'accord? C'est d'ailleurs pourquoi je ne citerai pas le nom de cette personne. C'est quelqu'un, un des plus grands ulama de notre époque, hein, qui est décédé il y a à peu près 5 ans, d'accord? Je ne dirai pas le nom de cette personne, d'accord? Mais cette personne, c'était en Arabie Saoudite, d'accord? Elle était à un âge avancé. C'était une personne, hein, j'ai visité le village, hein, le village de cette personne, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour le dîn d'Allah, d'accord? Elle fait des dars, elle enseigne dans la madrasa, elle enseigne dans les masjids, etc., etc. De temps en temps, elle était invitée à Makkah pour donner des conférences, des bayans de Haram Sharif, dans les petits coins, hein, sur le Maqam, à Madina Munawwara, etc. Et cette personne m'a expliqué, je n'ai malheureusement pas pu le rencontrer, c'était pas munasib. Cette personne, hein, dit que quand elle quitte sa maison pour aller dans Mazasab, il y a une armée de personnes avec elle. C'est des gens qui sont là que pour poser des questions. Fatwa. Que de fatwa? C'est un des plus grands muftis de la région, de la péninsule arabe, de la péninsule du Moyen-Orient, d'accord? Depuis sa maison jusqu'à la masjid, quelqu'un d'âgé, hein? Depuis, il n'y a pas une seconde qui passe sans que cette personne fasse quelque chose en relation avec le dîn. Khidmat de dîn. À l'aller, il y a 50 personnes avec elle, une étoile filante, pour poser des questions sur fatwa. C'est pas juste pour marcher avec lui, hein, fatwa. Au retour, personne ne l'approche. Parce qu'au retour, il fait son dor. Il fait muraja, il révise son hifz al-Qur'an, d'accord? Et cette personne, à la fin de sa vie, elle est décédée il y a à peu près, j'étais encore étudiant là-bas, elle est décédée il y a à peu près, donc ça fait 5, à peu près 8 ans environ. Cette personne, à la fin de sa vie, elle fut atteinte d'un cancer, d'accord? Si je ne me trompe pas, c'était un cancer du côlon. Et donc, apparemment, Wallahu alam, ça a été découvert à un stade un peu avancé, Et là, on a dit à ce cher, dit voilà, cher, vous avez telle maladie qu'on appelle en arabe as-saratan, vous avez cette maladie, et donc il n'y a pas d'autre solution que d'avoir recours à la chimiothérapie. Alors, cette personne dit, ben, quelles sont les conséquences de ce traitement? Elle dit que ben, vous allez perdre vos cheveux et vous allez perdre votre barbe. C'est quelqu'un qui a une barbe blanche, c'est quelqu'un qui était âgé. Elle dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Elle dit non. Elle dit que c'est sûr que je perds ma barbe en faisant la chimio. Elle dit que c'est sûr que vous perdez tout votre système capillaire. La personne a dit que je suis à un âge avancé. Dans quelques temps, je vais rencontrer Allah. Et comment est-ce que je peux rencontrer Allah alors que mon visage ne ressemblera pas en apparence au visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire que comment je vais me présenter devant Allah avec un visage sans barbe? Alors que cette personne était ma'zour, elle était excusée, excusable auprès d'Allah, parce qu'elle était atteinte d'une maladie incurable. Cette personne a dit, je fais confiance en Allah, mais jamais je ne ferai quelque chose qui m'éloignerait de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le gouvernement, c'était quelqu'un de tellement aimé, on lui a donné une chambre dans un hôpital à Makkah al-Mukarrama, et sa chambre était en face de Bab Umrah. De Bab Umrah, de le Haram Sharif à Makkah, en face de Bab Umrah, et de sa chambre, elle ne pouvait plus se déplacer, de sa chambre, elle continue à faire ses discours, à donner des dabs, faire des bayans par micro et retransmission, et elle recevait régulièrement les questions, les fatwas, elle continue à donner les fatwas, etc., jusqu'à ce que cette personne, elle est décédée. Et regardez dans quel degré depuis de nos jours, c'est devenu un geste courant. Il va au travail, bon, on se rase et tout, c'est pour être intégré, pour être comme tout le monde. On incrimine personne, hein, quand je dis ce genre de choses, je garde les yeux baissés. Comprenez que je fais qassam par Allah, que mon objectif, c'est pas d'effleurer quelqu'un, ou d'atteindre quelqu'un, ou de viser quelqu'un. Vous savez, n'importe quel discours, hein, le but c'est quoi? C'est wa ta'awanu al birri wa taqwa. Que l'objectif c'est quoi? C'est de ramener le maximum de personnes vers Allah et vers la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, quand il y a besoin de rappeler certaines choses qui, même si nous on le sait, mais qui font un peu mal, qui nous met mal à l'aise, mais si on ne le fait pas, on aura des comptes à rendre. Parce qu'on a ce amana en tant que personne qui a appris un peu de ilm, on se doit de propager telle chose. Si personne ne le fait, ben, nous sommes tous responsables auprès d'Allah Ta'ala. Et le but, c'est pas que tu dis, ouais, là, il a entendu, là, ma voix, s'il va faire ça encore, là, wallah, il a ardé. Parce que chaque homme est libre, hein, ce qu'on fait comme action, c'est entre nous et Allah. Mais notre but, c'est quoi? À travers chaque discours, à travers chaque bayan, c'est qu'on ait le degré de iman requis pour qu'un jour, on soit tous dans le Jannah. C'est ça l'objectif. C'est pas que tu dis, tel, il a gagné son cause. Moi, en soi, il a mis sa peau, il a vu le pantalon, etc. Wallah, je ne fais pas ça par Allah, on ne vise personne. Le but, c'est quoi? C'est que chacun se rapproche d'Allah par imtithal bi'amrillah, en respectant les ordres d'Allah et en s'éloignant des interdits, en restant accroché à la sunnah. Pourquoi? Pas pour que dans la société, je sois bien vu. Je vous donne ma promesse aussi, qu'il y a beaucoup de gens barbus. On a vu dans les voyages, beaucoup de gens avec de grandes barbes, mais le cœur n'a rien de. Des gens qui ont de grandes barbes, qui ont l'impression que c'est le bouzouk de l'année, mais quand vous restez avec ces gens, avec Mu'amala ou autre chose, vous vous rendez compte que ben, y a des gens qui n'ont pas ce même respect de la sunna, mais intérieurement ils ont plus de qualité. Donc ce n'est pas un critère, hein. Il ne faut pas se dire que tous ceux qui ont la barbe dans le paradis, ceux qui n'ont pas la barbe, c'est des koufars ou c'est des foussards. Là, Wallah, Allah sait ce qu'il y a dans le cœur. Ça, c'est clair, d'accord? Mais ensuite, il y a ce que notre prophète nous a demandé. Et si on insiste là-dessus, c'est pour réveiller en nous l'amour pour notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah dit le Coran, « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. » Il dit, hein, c'est Allah qui dit, que si vous aimez Allah, suivez mon mode de vie. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles. Et comme de ces gens d'assemblée, le jour de Jum'a, de n'importe quelle assemblée, quel que soit le jour, on est assis, et Inch'Allah, un jour de le Jannah, on sera assis ensemble. Et il dit que de le paradis, les gens se souviendront des jours difficiles de ce dunya. Peut-être que dans le Jannah, il vous rappelle quand le pétrole avait monté. Il a bloqué à nous, il est parent à case. Il rappelle quand il avait tel problème, il avait difficulté pour pratiquer, quand il avait telle chose. Comment on était malmené, comment on était considéré comme des fous ou comme des gens qui sont en décalage avec la société, ils sont renfermés de leur religion. Maintenant, regarde, qu'est-ce que Allah nous a donné. Et puis, il y avait un BSL, voilà, subhanallah, expliquer ça m'échappe, le BSL ne me revient pas. Voilà, dans le paradis, et là on se pose des questions. Où est telle personne, hein? Où est tel monde? Après, tu dis non, ben lui, malheureusement, il n'a pas suivi ce qu'Allah avait demandé. Malheureusement, cette personne dans telle situation, dans telle taqrib, dans telle difficulté. Là, les gens du paradis, ils vont se parler. Et les gens qui se côtoient se retrouvent. Les familles se retrouvent. Quelqu'un a perdu son épouse il y a 30 ans, elle est avec elle. Quelqu'un qui a perdu son fils, qui a perdu son père. Mais c'est formidable dans le paradis. Tout le monde se retrouve. Et puis, dans le jannat, hein, parce qu'il faut dire, c'est une bonne touche, je vais dire que j'ai dit que des trucs négatifs. Dans le jannat, Allah dit le Coran, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Le ghill, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a de mauvais dans le cœur d'une personne. Il y a tout ce qu'il y a comme défaut dans le cœur d'un humain. Je dis d'un humain, pas d'un musulman. C'est des choses qui sont humaines, ça. Être jaloux, c'est humain. Comme votre voisin, tiens, existe. Ah, dis-moi encore mon titre 307, il dit, tiens, existe, c'est pas possible, comment? Ah, c'est pas possible et tout. Ça, c'est humain, ça. Ça, il faut travailler. Il y a de ce qu'il y a, il y a un travail à faire intérieurement. Mais ça, ce sont là des sentiments humains. D'accord? Votre voisin, il y a eu telle chose, telle personne, vous connaissez, il y a eu telle avancée dans son travail, autre chose. C'est-à-dire, je dis une chose, la jalousie, ou le fait d'envier son prochain, ou la haine, les mauvaises pensées. Tout ça, ça habite dans le cœur de l'homme et qu'on doit travailler. Mais le jour de Qiyamah, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ce genre de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que, bon, il y a certaines choses qu'on ne va pas décrire dans le paradis, qui font que certains cas de figure, qui font qu'il n'y aura plus de jalousie. Même si telle personne voit telle chose, mais Allah enlève tout ce qu'il y a de négatif dans les cœurs, et tout le monde se côtoie dans le plus grand mohabbat. C'est idyllique, mais c'est le paradis. Qu'Allah nous y réunisse, et nous donne surtout les qualités de ce dunya pour y accéder, et donner ça. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.